8h14 sur le plateau de la plus rebelle et tout de suite l'invité.
C'est l'invité.
Oh mon Dieu, c'est l'invité.
C'est l'invité.
C'est l'invité, c'est l'invité, c'est l'invité.
C'est l'invité.
Oh, c'est l'invité.
C'est l'invité.
C'est l'invité.
Oh là 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 là.
C'est l'invité.
C'est l'invité.
C'est l'invité, ma gueule, c'est l'invité.
Je te jure, c'est l'invité.
L'invité.
C'est l'invité. C'est l'invité. Fais place à l'invité.
Et bonjour à ceux qui nous écoutent. Écoute, sur le plateau de La Plus Rebelle, il est 8h15. Au commencement était la tradition juive, diasporique, antinationaliste. Un antinationalisme qui a tenu les communautés juives face à l'idée d'État, alors même qu'elle acceptait le principe rabbinique qui réglementait la vie en diaspora. Cet antinationalisme trouve ses sources dans l'histoire juive, et notamment chez les intellectuels et les nombreux militants révolutionnaires juifs de la fin du 19e siècle. C'est aussi l'avènement du mouvement sioniste qui transforme les antinationalistes juifs en antisionistes. Ainsi, au moins jusqu'à l'établissement d'Israël en 1948, la plupart des antisionistes, qu'ils soient religieux, révolutionnaires, bourgeois ou libéraux, étaient juifs. Il faut ajouter à cela les nombreux juifs qui, aujourd'hui, sont antisionistes et sont aussi, dans leur grande majorité, des militants antiracistes, inscrits dans une solidarité internationale. En effet, le signe d'égalité placé entre le terme antisionisme et antisémitisme, comme a pu le faire Macron en 2017, ou alors d'associer l'identité juive au sionisme constitue un véritable déni d'histoire. Une forme de révisionnisme qui cherche à effacer, comme a tenté de le faire le sionisme depuis son avènement, toute trace de la longue tradition juive, religieuse ou séculière, d'opposition à l'idée d'État-nation juif. Aujourd'hui, sur le plateau de Dormir Debout, il nous semble nécessaire et urgent de porter des voix décoloniales, antiracistes et antisionistes. C'est pourquoi j'accueille aujourd'hui un membre du collectif juif décolonial Tzedek à Lyon. Bonjour Tal.
Bonjour.
Bienvenue sur le plateau de Dormir Debout.
Merci beaucoup.
Voilà, en cette matinée bien matinale, il faut dire. Merci d'avoir répondu à l'invitation.
Bah, merci beaucoup pour l'invitation.
Alors, toi, tu es membre du collectif Tzedek. Est-ce que tu pourrais en parler, le présenter?
Oui. Du coup, Tzedek, c'est un collectif juif décolonial qui est né au courant 2023. Donc avant octobre 2023, en été 2023, qui est né à Paris. Puis il y a eu plusieurs antennes dans différentes villes qui se sont au fur et à mesure ouvertes. Donc à Lyon, ça a été créé vers janvier 2024. Et moi, je milite dans ce collectif depuis sa création à Lyon. Du coup, c'est un collectif qui est en ligne avec la ligne politique de l'UJFP, donc l'Union juive française pour la paix, mais qui se démarque quand même de l'UJFP pour des questions aussi de lutte contre l'antisémitisme en France. L'UJFP, c'est l'Union juive française pour la paix, du coup c'est un collectif juif antisioniste qui milite beaucoup pour l'autodétermination du peuple palestinien. Et Tzedek, c'est suit les mêmes lignes, du coup.
C'est les contemporains de l'UJFP, on peut dire.
Un peu. Mais il y a pas mal de membres à Tzedek qui sont aussi à l'UJFP. Et c'est vrai que c'est une autre génération et c'est une autre manière de militer. Et Tzedek fait un point quand même important sur la lutte contre l'antisémitisme, contre l'instrumentalisation de l'antisémitisme. Et c'est pour ça que ils sont hyper pertinents en ce moment.
Complètement. Et du coup, Tzedek, tu peux rappeler ce que c'est? Peut-être tu l'as dit déjà.
Ça veut dire justice
en
hébreu.
C'est ça. J'ai trouvé ça important à dire quand même. Et du coup, donc c'est un contemporain de l'UJFP. L'UJFP, c'est un long temps d'existence quand même, parce que c'est un assez vieux collectif.
Oui, carrément.
Qui est là depuis de nombreuses années et qui lutte. Est-ce que tu pourrais rappeler un peu dans le CEDEC les composantes du mouvement, enfin comment ça s'organise? Il y a plusieurs villes et donc groupes de CEDEC qui se réunissent un peu dans un épicentre parisien.
Oui, plus ou moins parisien. Après, c'est des gens qui viennent de Marseille, il y a des gens qui viennent de Lyon. C'est un collectif où il y a quand même pas mal de membres et qui a très vite grandi parce qu'il y avait, je pense, un besoin toujours actuel, enfin qui est toujours maintenant, c'est toujours le cas, de faire collectif entre personnes juives antisionistes. Donc c'est un collectif qui est aussi en non-mixité entre personnes juives.
C'était un peu les composantes.
Oui, du coup, il y a plusieurs aspects, enfin il y a plusieurs moyens de faire collectif. Il y a la décolonisation de nos traditions, par exemple, qui est super important à CEDEC. Peut-être qu'on pourra revenir dessus.
On va revenir dessus. Oui.
Il y a la lutte dans le concret politique aussi, en manifestation, avec des appels, des tribunes, avec une ligne politique très à gauche, clairement assumée. Et il y a aussi, du coup, l'organisation de pas mal d'événements. Donc il y a des ciné-clubs qui se font beaucoup à Paris. À Lyon, on a eu quelques projections de films aussi. Il y a des colloques qui sont organisés, il y a des rencontres, des discussions, des interventions, beaucoup d'interventions sur les médias, ce qui est hyper important pour visibiliser la parole, comme ce qu'on est en train de faire maintenant. Et chaque ville a des manières, des tactiques de faire qui sont différentes.
Du coup, les décisions sont prises vraiment dans les villes, dans les événements qui sont, enfin, par rapport aux événements que vous voulez faire, etc. Ou, enfin, il y a une horizontalité quand même dans le CEDEC, dans ce qui est possible de faire et dans, en même temps, un manifeste suivi par tous.
Oui, c'est ça. Mais c'est que, enfin, le CEDEC ramène quand même des gens qui sont assez clairs sur la ligne principale, qui est un antiracisme, un antisionisme. Qui reste au centre de nos luttes.
Ok, je voulais peut-être en venir aux spécificités politiques sur la question justement de l'antisémitisme et du racisme, et peut-être parler de la critique qu'apporte CEDEC sur les politiques des associations antiracistes comme Stop Racisme ou d'autres, la LICRA. Et justement, en fait, j'ai cru comprendre donc aussi que le collectif il se posait aussi dans une forme de critique à ces associations. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus de cette distinction qui est faite entre l'antisémitisme et le racisme, justement, et comment vous, en fait, vous le rapprochez dans une et même chose, en fait, hein, comme.
Ouais, je pense que c'est une critique et c'est aussi une alternative en fait à ces associations, ces collectifs. L'antisémitisme est un racisme et je pense que on a voix aussi à le rappeler constamment que l'antisémitisme n'est pas extraordinaire, c'est pas une forme de racisme différente, enfin chaque forme de racisme a sa propre spécificité. Mais vouloir séparer l'antisémitisme des autres formes de racisme, moi je pense que ça vient d'une sorte de positionnement moral contre l'antisémitisme,
une forme d'élitisme presque de l'antisémitisme et du juif complètement.
Ouais, mais je pense que ça découle de l'histoire européenne, du génocide, du judéocide, qui a eu lieu en Europe et dont les politiques qui ont suivi ont voulu un peu rendre l'antisémitisme et le génocide contre les personnes juives comme quelque chose d'exceptionnel et quelque chose qui n'est pas qui n'a rien à voir avec le reste du passé colonial, avec le reste du passé colonial de l'Europe. et qui du coup isole l'antisémitisme comme quelque chose, comme un faux pas en fait des pays européens, plutôt que comme quelque chose qui est dans la continuité en fait de l'histoire coloniale de la France notamment, de l'Allemagne, de plein de pays européens. Et du coup, rendre l'antisémitisme, comme extraordinaire ou l'isoler des autres racismes, ça fait qu'il y a une sorte de positionnement moral qui est aussi très lié à la culpabilité en fait la culpabilité européenne vis-à-vis de la Shoah, et qui du coup permet pas de penser en fait l'antisémitisme comme un problème systémique et un problème qui a été créé par les États.
Ouais, structurel, ouais. Complètement. Et du coup, de ce fait, il y a aussi la distinction, comme tu dis, en fait, par rapport à une forme de une politique de la morale sur la question de l'antisémitisme. Mmh. Et justement, en fait, de considérer l'antisémitisme comme quelque chose d'individuel. Ou morale justement, et que du coup ça passerait par une forme d'éducation seulement de la personne, des personnes mal éduquées qui seraient donc propices à l'antisémitisme, et je trouve ça hyper important, enfin moi à titre personnel, que voilà, qu'il y ait des collectifs qui critiquent ça, mais qui apportent une critique, qui sont pas forcément dans une opposition à ces collectifs, mais plus voilà une critique sur cet aspect là de la manière dont on traite l'antisémitisme en France. J'ai vu en fait sur l'Instagram du collectif un procès qui avait été intenté à Tzedek, prétendu juif d'exception par l'aile gauche de l'arc sioniste, mais du coup pour ne pas citer des noms, mais Jonas Pardo et Samuel Delors, dans le petit manuel de la lutte contre l'antisémitisme qui vous avait justement appelé juif d'exception, donc dans une déformation du coup de la formule de Arendt qui utilisait ça comme les juifs assimilés justement de la bourgeoisie, donc voilà une réutilisation de cette histoire. Et puis on l'a vu aussi dans le magazine Franc-Tireur ou Tzedek, avec un titre Tzedek juif mais pas trop. Du coup ça va même jusqu'à remettre en question votre judéité. Et on peut voir à l'intérieur de ça que c'est tout le printemps républicain, mais même la marche contre l'antisémitisme où le FN, le Front National, était venu marcher, etc. Est-ce que la lutte contre l'antisémitisme et l'instrumentalisation d'États associant sionisme et juif est issue de cet antisémitisme moral dont on parle là dans ce que Tzedek défend, et même d'ailleurs de philosémitisme. Alors on peut peut-être expliquer le terme parce qu'il a l'air un peu frauduleux comme ça, mais peut-être tu peux l'expliquer si
Du coup le philosémitisme d'État, c'est un pendant de l'antisémitisme. En fait, c'est quelque chose qui renforce l'antisémitisme à long terme. C'est le fait de rendre une minorité modèle, donc en l'occurrence la minorité juive, comme une minorité qu'on peut associer à l'État. C'était un ministre dont je ne vais pas citer le nom qui avait dit quelque chose comme faut protéger les juifs à même titre qu'il faut protéger les gendarmes, à même titre qu'il faut protéger l'État. Donc il y a vraiment une association en fait entre la minorité juive qui représente une toute petite partie de la population en France, à l'État. Donc il y a une sorte d'obsession juive dans tous les cas qui en fait est instrumentalisée, parce que on l'a bien vu pendant les élections législatives que l'antisémitisme, c'était une question qui était un petit peu quand même importante dans la propagande du gouvernement aussi, pour inciter les gens à voter ou ne pas voter pour tel et tel parti, pour diaboliser la FI. Il y a le philosémitisme, en fait, c'est l'amour des juifs, si on décortique un petit peu le mot. Et c'est un peu cette manie qu'a l'État de manier, en fait, cette minorité un peu comme il, bon lui semble, ce qui lui paraît pertinent pour ses fins politiques. Donc typiquement, ce serait par exemple l'instrumentalisation de l'antisémitisme pour réprimer les collectifs palestiniens, pour réprimer la cause palestinienne, et puis surtout pour soutenir l'État d'Israël en toute impunité, parce qu'il y a justement cette justification morale de les Juifs sont Israël, et du coup, si on critique Israël ou si on ne soutient pas Israël, on critique les Juifs, on ne soutient pas les Juifs. Il y a tout un truc aussi de... l'État et de son apparatus qui mobilise en fait la question du nouvel antisémitisme.
Oui, le nouvel antisémitisme, c'est vrai qu'on entend, enfin on entend beaucoup cette formulation là qui pareil fait peur aussi, voilà, enfin parce que instrumentalisé, etc. Et c'est vrai que bah, encore une fois tout le monde n'a pas conscience de ça, de ce qu'on entend par nouvel antisémitisme, de l'instrumentalisation que c'est. Et c'est vrai que c'est un mot qu'on entend pas mal quand même.
C'est un mot qu'on entend pas mal et qui en fait, c'est, pour moi, il sert un peu de dog whistle, parce qu'en fait, on sait très bien, quand tu décortiques, c'est à des fins complètement islamophobes et c'est tout. Parce que le nouvel antisémitisme, ça veut dire qu'il se... Si on dit que c'est un nouvel antisémitisme, ça veut dire qu'il se démarque de l'ancien. L'ancien, c'était des Européens blancs, chrétiens, qui étaient nazis. Et en fait, maintenant, les nazis, limite, c'est plus eux qui sont antisémites, c'est les musulmans.
Ouais,
c'est... et du coup...
Facile. Franchement, facile, quoi. Tacle, quoi.
C'est ça. Et en fait, si on se base dans la ligne du gouvernement qui est ouvertement islamophobe, qui passe des lois, enfin, récemment, très, très islamophobes, tout en ayant en tête que il instrumentalise en fait la minorité juive pour ses fins islamophobes, le philosémitisme d'État, il sert que à renforcer en fait ce discours qui cherche à nous diviser en tant que minorité religieuse.
Ouais, puis on l'a vu, moi ça me fait penser à au décret Crémieux en fait. Parce que bah, typiquement dans une politique philosémite, le décret Crémieux, il est plus que exemplaire. 1870, on décide d'accorder la nationalité française aux juifs algériens, là où où tous les musulmans sont considérés comme encore de l'indigénat. Et ça pour le coup, c'est vraiment
C'est divisé pour mieux régner.
C'est, voilà, exactement, divisé pour mieux régner, ouais, complètement.
Mais on reste dans les mêmes schémas, les mêmes logiques coloniales de monter les minorités les unes contre les autres pour qu'elles puissent pas, pour les affaiblir et pour pas pouvoir critiquer vraiment l'État en lui-même.
D'où l'importance un peu de Tzedek aussi, de se rapprocher de ces collectifs qui luttent pour la Palestine. Peut-être tu peux en nommer certains, mais voilà, en tout cas Tzedek participe activement à cette revendication là du peuple palestinien et l'autodétermination, justement un peu à la suite de l'UJFP comme tu disais tout à l'heure. Mais du coup, comment ça se passe chez Tzedek? Il y a des collaborations qui sont faites avec d'autres collectifs, est-ce que tu peux en parler?
Bah, je peux parler surtout de ce qui se passe à Lyon, puisque je milite surtout sur Lyon, mais je sais que c'est un peu partout pareil. Les militants et militantes de Tzedek sont présents en manifestation pour la Palestine. Et aussi organisent des événements, des rencontres, des ciné-clubs, comme je l'ai dit, plutôt avec d'autres organisations. Enfin, à Lyon, en tout cas, le réseau, il est assez soudé quand même. On se connaît bien, on a fait des événements ensemble aussi. Tzedek à Lyon, on a organisé des projections de films où il y avait notamment Israelism avec Urgence Palestine. Oui, on était quelques membres aussi à organiser une rencontre avec Eyal Sivan. Où il y avait...
Eliel Tiven, c'est un réalisateur
israélien
qui lutte contre le projet sioniste et qui porte une voix très intéressante.
Ouais. Surtout, il fait des films que je conseille.
Oui, oui, complètement. Est-ce que tu as des titres
Il y a Jaffa, la mécanique de l'orange.
Génial.
Ça, c'est ce qu'on a projeté. Donc, ça, c'est, en fait, c'est un réalisateur exilé, du coup. Enfin, je sais pas s'il est exilé, mais si, je crois qu'il est exilé. En France, depuis bien un bout de temps. Il a réalisé des films qui en fait permettent de voir comment le projectionniste il s'est mis en place et il continue de se mettre en place du point de vue aussi des Israéliens, mais pas que. Donc en fait, quand il était venu pour son intervention à Lyon, on avait projeté Jaffa, la mécanique de l'orange, qui est du coup un film qui tourne autour de la question des orangeries.
Était le point de départ du commerce et de la marchandise à Jaffa.
Ouais, un des points de départ, ouais, où il y a eu en fait la colonisation a s'est approprié les orangeries, mais très très concrètement, les personnes palestiniennes ont été virées et remplacées par des Israéliens ou des Juifs à l'époque avant 48. Et en fait, dans ce film, du coup, il va interroger des personnes palestiniennes, aussi des personnes israéliennes palestiniennes, enfin qui ont la nationalité israélienne,
qui ont
la
nationalité, ouais.
Et en fait, il parle à 10 personnes qui sont hyper sionistes. C'est un film qui est assez dur à voir parce que c'est des personnes qui ont des discours qui sont hyper génocidaires, en fait. Mais il y avait une question qui a été posée pendant ce film, c'est comment vous faites pour que les gens ils vous disent autant d'informations. Parce qu'en fait, quand tu regardes le film, les gens ils se livrent et en fait, du coup, ils racontent la machine coloniale. Ouais. Ils la racontent de l'intérieur. Ils racontent comment eux, ils sont acteurs actifs de cette machine sans aucun scrupule, enfin, sans aucun problème, parce que c'est juste normalisé. Et.
Sans filtre, quoi.
Sans filtre, ouais. Ouais. Ça aide que lui, il soit israélien, qu'il parle la langue et que du coup, les personnes lui font confiance. Mais voilà. Donc il y a
Eyal Sivan.
Eyal Sivan.
Je me souviens d'une phrase qu'il avait dit à un moment donné, que, enfin, sur cette question de l'antisémitisme, où en fait, si l'antisémitisme est la pluie, Israël est le vendeur de parapluies. Et je trouvais que cette phrase, elle sonnait importante en fait dans le contexte et dans ce que lui défend et ce que vous défendez. Mais voilà, vraiment l'idée de qu'Israël n'est pas en train de fabriquer l'antisémitisme, mais qu'il est vraiment le vendeur de parapluies qui entretient cet antisémitisme-là.
Oui.
Et je trouvais ça assez intéressant. Et le documentaire Israelism, du coup, de Erin Axelman et Sam Eilertsen, je sais pas si je l'ai prononcé très bien, mais. Et qui est un petit peu le documentaire de jeunes juifs américains élevés dans l'amour inconditionnel à Israël. Et qui sont témoins dans la façon, enfin, de la manière dont on traite les Palestiniens dans leur pays, et qui prennent complètement un virage à gauche. Est-ce que tu peux en parler, d'autant plus que Tzedek en a fait une projection donc assez récemment, voilà.
Ouais, là il est encore projeté à Paris, pour un ciné-club. Quand on l'avait projeté, du coup, c'était en été dernier, je crois, avec Urgence Palestine Lyon. C'est un film qui, du coup, retrace l'embrigadement et la propagande sioniste à l'étranger, donc aux États-Unis, et comment, en fait, le sionisme juif est complètement fabriqué. Donc, c'est-à-dire que l'association à la judéité et au sionisme, elle se fait... aussi au sein des communautés juives, en fait, que c'est dans les écoles, c'est dans les camps d'été, c'est dans les écoles talmudiques aussi, où on construit, du coup, en fait, l'identité juive comme une identité sioniste.
Oui, la glorification d'une forme de défense de la terre, etc.
Ouais. Ouais.
C'est, pour le coup, ce documentaire est aussi assez dur à regarder.
Ouais.
Enfin, en même temps, assez beau parce que tu vois en fait la prise de conscience, et en même temps, waouh, tu vois aussi l'endoctrinement et la glorification du sionisme, et c'est vrai que c'est pas facile à voir aussi. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez dur.
Ouais.
même par rapport à la mécanique de l'orange qui m'avait aussi bien marqué, celui-ci m'a particulièrement fait frissonner, quoi.
Ouais, carrément. Bah, tu te rends compte, en fait, à quel point ça a des, enfin, ça a des conséquences énormes. Et en fait, moi, je pense, tu te demandes aussi, mais comment vous pouvez pas voir, comment vous pouvez pas voir à quel point
ce qui est en train de se passer.
Ouais. Ouais. Comment on peut nier, en fait, autant.
Mais complètement. Complètement. Mais d'ailleurs, de la même manière, enfin, moi, j'ai souvent cette question qui me vient, mais tu sais, genre, si je pense au temps d'avant et que je me dis, mais comment est-ce qu'ils ont pas vu venir la guerre ou le conflit ou la Shoah ou, enfin, tous ces événements historiques. Et quand je me souviens, étant jeune, je me posais souvent la question de mais comment est-ce qu'ils ont pas vu le truc venir, quoi. Et en fait, voilà, tu fermes les yeux, tu te laisses, tu prends les paroles telles qu'on te les donne et puis t'as pas le choix, tu continues parce que t'es dedans. Et j'ai l'impression aussi qu'une des ancrages du sionisme dans la judéité, c'est que voilà, bah, une fois que t'as donné ta vie pour Israël et que t'as construit toute une famille, une communauté, etc., bah, qu'est-ce que tu fais quand cet État est génocidaire et...
Mais c'est aussi parce qu'en fait, les sionistes nous font croire qu'il n'y a pas d'alternative.
Complètement.
Et c'est qu'ils essayent de taire et questionner la judéité et nier la judéité des personnes qui, bah, se posent la question par rapport au génocide, par rapport à l'entreprise coloniale, par rapport au fondement aussi juste de l'État d'Israël. Donc c'est clairement ce qui se passe aussi avec toutes ces tribunes. Et c'est ce que Tzedek voit aussi à faire, de justement, il y a une alternative, parce que si on ne propose pas d'alternative, personne ne va savoir que on n'est pas obligé d'être juif et sioniste, enfin,
c'est clair.
Aussi, enfin, le fait de le désaccord, c'est quelque chose de très juif quand même. Il y a ce dicton qui dit deux juifs, trois opinions. Donc on le connaît au sein de la communauté, mais sauf que ce dicton, il s'arrête au sionisme. Il y a une non, enfin, il y a un manque complet de enfin, il y a un rejet, en fait, de la part des sionistes juifs, des collectifs ou des individus non sionistes.
Et d'ailleurs, justement, ça enchaîne avec ma question d'après, mais quel rôle joue Tzedek au sein de sa communauté pour tous ces juifs et juives qui souvent, très souvent, doivent prendre un parti aussi. Enfin, voilà, ils sont beaucoup aussi engrainés par leur communauté, par leur famille, etc. Et comment, voilà, quel est le rôle de Tzedek là-dedans? Et pourquoi est-ce que vraiment il y a un enjeu en tant que militant juif décolonial de faire entendre la parole juive sur ce qui se passe actuellement? Et tu viens un peu d'y répondre en disant justement que c'est important, en fait, de laisser une alternative possible.
Ouais. J'avais mentionné plutôt la décolonisation de nos traditions, parce que Tzedek a aussi une portée religieuse, culturelle, traditionnelle, et cherche aussi à, enfin, en fait, on cherche à recréer ou proposer une alternative à des fêtes qui ont été complètement envahies par le sionisme aussi. Donc c'est, par exemple, on avait fait Rosh Hashanah, qui est le nouvel an juif, à Paris, où on avait invité du coup le rabbin Gabriel Agaï, qui est un rabbin antisioniste et qui est trop cool, qui a un podcast, enfin, qui est passé, enfin, sur plusieurs médias, etc.
Sur Paris.
Ouais, sur Paris. Sur Paris 20e. Et on avait aussi invité, enfin, il y avait plein de personnalités religieuses qui avaient été invitées. Et en fait, c'est ça aussi la voie, c'est pouvoir célébrer nos fêtes ensemble, en tant que personne antisioniste aussi, bien ancrée dans la lutte pour la libération de la Palestine, bien ancrée pour l'autodétermination du peuple palestinien. Donc ce serait par exemple réécrire une Haggadah, c'est ce qui s'est passé l'année dernière pour Pessah, où il y a une intentionnalité, en fait, de remettre la question palestinienne aussi au sein de nos luttes et de nos luttes spirituelles aussi.
On parle là de l'autodétermination du peuple palestinien, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi dans une toute autre situation, mais hein, une autodétermination du peuple israélien qui est relativement endoctriné, etc. Mais je sais qu'il y a aussi des communautés, des collectifs, etc. là-bas qui luttent en Israël contre le projet sioniste. Du coup, j'ai invité sur un plateau cet été une personne, une porte-parole d'un de ces collectifs, et qui disait que voilà, il y avait aussi à réveiller un autodétermination du peuple juif et plutôt des citoyens israéliens par rapport à ce génocide en cours. Et du coup, ouais, est-ce que l'autodétermination, elle se défend aussi? J'ai l'impression que c'est un peu ce que vous faites à Tzedek, par la communauté, par le fait de changer une intentionnalité. Il y a aussi une autodétermination du peuple israélien à trouver, à faire valoir, pour tous ces Israéliens qui luttent là-bas.
Je pense que Tzedek lutte surtout pour les peuples juifs en diaspora. On avait organisé un des plus grands colloques transnationaux antisionistes juifs depuis le Bund en Europe.
Le Bund, qui est donc une organisation antisioniste de
Vilnius.
Ouais,
c'était c'est un peu nos ancêtres.
C'est ça, c'est les ancêtres de l'antisionisme.
C'était un groupe de travailleuses et de travailleurs juifs d'Europe de l'Est qui prenait le yiddish, donc pas l'hébreu, qui prenait le yiddishkeit, le yiddishland, la recréation et en fait la lutte contre l'antisémitisme en Europe. On est ici, on est chez nous partout. C'était un des slogans du Bund. Et du coup, Tzedek a pas recréé le Bund, parce que voilà, ce qui est fait est fait, mais a organisé, et permet en fait de mettre en lien aussi les Juifs de la diaspora dans d'autres pays, en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre, où il y a beaucoup, beaucoup de mouvements. En fait, il n'y a pas que en France. En France, on est même un peu en retard par rapport en Angleterre et par rapport aux États-Unis, sur. Enfin, aux États-Unis, on a tous vu des images de centaines de personnes qui faisaient des blocus énormes, qui ont fait des actions vraiment importantes. Mais à Tzedek, on grandit de plus en plus aussi, et on continue de militer justement pour jusqu'à la libération de la Palestine, et aussi pour réinventer notre diaspora, en fait.
Oui, et même après, tout le travail de mémoire sera à faire.
Et déjà en train de se faire aussi.
Et déjà en train de se faire, ouais.
Le travail de mémoire, c'est aussi se réapproprier aussi une mémoire qui est la nôtre, à la mémoire de la Shoah, par exemple. Oui, Tzedek à Paris a organisé un colloque à l'occasion du 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Qui du coup voit lui des tribunes de remise en question de la judaïté, etc. Comme si l'histoire d'Auschwitz n'était pas l'histoire de beaucoup de juifs en Europe.
Oui, n'ayant pas le droit de parler à ce sujet.
Oui, on peut pas ça. Oui, c'est on a le droit et on prend le droit. Ouais. Et il y a pas de justification à avoir. Il y a pas de chercher une légitimité. Il y a même pas de question à se poser, en fait.
Complètement. Et alors, comment Tzedek met en œuvre sa lutte? Quelles sont ses priorités? J'ai l'impression qu'elles sont éminemment politiques. Enfin, il y a vraiment une et également communautaire, du coup. Qu'est-ce que c'est vos priorités? C'est quoi les objectifs de Tzedek? Et est-ce que Tzedek continue à grossir? Est-ce que, parce qu'on a vu aussi une ampleur du mouvement en octobre et après, mais est-ce que du coup voilà, c'est quelque chose qui continue à s'amplifier?
La priorité, enfin il y a plusieurs priorités, je pense qu'on a déjà un peu mentionné, Tzedek continue de grandir, et je pense que Tzedek, en tout cas à Paris, en France et aussi à Paris, et aussi à Lyon, et aussi
épicentre.
À Marseille, et à Toulouse. Bref.
Et à Genève.
Et à Genève. Non, c'est Marade à Genève.
Ah, c'est pas TD4 Genève.
Ben, bon, après, c'est juste une question de, oui. de détails, mais non, en vrai, non, Marade, c'est un super collectif qui font plein de trucs. Ils sont autonomes, ils sont complètement autonomes, Marade. On est juste en lien, on est sympathisants parce qu'on lutte, on est une lutte commune. Mais il a, TD4, bon, en vrai, enfin, la priorité, je pense que c'est, il y en a plusieurs. C'est évidemment de faire communauté, évidemment de faire avancer la parole juive sur la libération de la Palestine, ce qui reste quand même au cœur
de la lutte,
parce que c'est impensable de penser la libération juive juste parce que tout ce qui s'est passé l'année dernière, le génocide, l'amalgame sionisme juif, enfin, en fait, on a la libération de la Palestine et au cœur de la libération juive aussi. Et on le voit très très concrètement en fait dans comment ça s'articule ce philo-sémitisme d'État qui cherche aussi du coup à réprimer et qui cherche à interdire en fait la parole palestinienne.
Oui, on l'a vu avec la dissolution d'ailleurs récemment de Palestine Vakra.
Ouais, exactement. Palestine Vakra qui a été dissolue. Enfin, qui a été dissous pour des parce qu'il y a eu des problèmes de modération des commentaires antisémites. Sauf que c'est encore une fois c'est la caution antisémite en fait qui justifie la dissolution d'un collectif aussi important que Palestine.
Mais complètement, il y a comme si c'est enfin il y a vraiment une idée de prendre les juifs comme prétexte à des politiques
oppressive,
ouais,
et raciste aussi clairement.
Ouais non c'est assez dingue. Et même par exemple pour revenir sur un autre événement donc que j'ai vu aussi sur récemment mais sur la commémoration justement
de la rue Sainte-Catherine
ouais et justement du coup enfin encore une fois là une où en fait il y avait eu une première commémoration avec Doucet, etc. Donc Doucet quand même qui n'était pas du tout bien vu dans les, enfin auprès de la communauté juive ici et qui, enfin a tenté de se rattraper. Enfin voilà, de la même manière que la marche contre l'antisémitisme avec le Front National, mais du coup Doucet était là avec d'autres élus pour commémorer. Et vous avez donc organisé et d'autres collectifs peut-être ont organisé une commémoration donc après coup. Est-ce que tu pourrais en parler parce que effectivement ça.
Ouais, on a organisé une commémoration après coup, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé entre personnes juives de plusieurs collectifs antisionistes pour aussi honorer la mémoire des personnes qui ont vu leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents raflés, déportés. C'est une histoire qui est lourde, c'est une histoire qui est hyper émotionnelle et ça a été mal vécu par les personnes sur place apparemment où il y a eu enfin il y a eu des personnes des individus que j'ai pas forcément identifié mais des individus qui nous disaient qu'on avait rien à faire ici que on venait pour soutenir le génocide que on s'appropriait une mémoire qui était pas la nôtre eux étaient là pour défendre la mémoire des juifs vivants
mais des gens random ou vraiment des gens qui étaient venus pour ça
non des gens qui étaient à la commémoration
avant
officielle.
D'accord.
Ouais. Et en fait c'est parce que on a voulu poser une germe de fleurs avec le logo de notre collectif dessus aussi pour justement faire ce travail de mémoire aussi. La mémoire elle est à tout le monde, enfin genre je devrais pas avoir à le répéter mais la mémoire elle est à tout le monde et c'est quand même hallucinant.
C'est clair.
Parce qu'on nous a pas laissé poser notre germe en fait. Il y a des personnes qui nous ont empêchés directement et puis après on s'est fait il y a des personnes qui dès qu'on l'a posé on l'ont récupéré et on nous a bien dit de dégager après.
Ce qui montre que TZEDEC est relativement important dans le travail qui
c'est les emmerdes
mène,
en tout cas.
Oui,
c'est les
clair.
Emmerdes. Et puis après, on a suivi des parutions d'articles dégueulasses d'articles et puis de communiqués de certaines institutions, etc., qui nous mettent en. Qui qui nous montent les uns contre les autres aussi, en fait, dans le média. Déjà qu'on se fait gueuler dessus. Après, il y a des articles qui titrent « Polémique à la commémoration de la rafle de la rue Sainte-Catherine
oui. ».
La polémique, c'est qu'on est venu et qu'on a voulu,
faire un travail de mémoire.
Faire un travail de mémoire et honorer nos morts et mortes.
Ouais, j'ai même eu l'impression que c'était une manière de tacler aussi les élus, genre Yasmine Boigat, la mairesse du premier arrondissement, qui est pas trop aimée du reste des élus parce que elle soutient,
elle a des idées d'extrême gauche apparemment.
Exactement, elle est taclée d'ultra gauche, un peu comme la moitié du monde de gauche connue. Mais oui, du coup, j'ai l'impression que c'est aussi une manière politique de se faire affront.
Oui, complètement.
Voilà, bon, on en parle pas plus. Mais et du coup, peut-être pour en venir à nous aussi, est-ce que, enfin, comment tu te sens toi de faire partie de ce collectif depuis 2 ans, tu m'as dit, plusieurs années.
Depuis un an, un peu plus.
Depuis un an.
Ouais.
Et enfin, comment ça résonne pour toi? Voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus sur ta perspective?
Personnel.
Perso, ouais.
Pour moi, c'est important de pouvoir s'inscrire dans la lutte pour la libération de la Palestine en tant que personne juive, avec d'autres personnes juives aussi, mais pas que. Et en fait, ça permet l'échange, ça permet la rencontre. Enfin, en tout cas, faire collectif, de toute façon. Ça permet la rencontre et ça permet de faire front, de faire bloc. Contre nos ennemis, contre ceux qui veulent nous décrédibiliser, nous silencier, ceux qui veulent nous faire croire que tu peux pas être juif et soutenir la Palestine, tu peux pas être juif et être antisioniste. Et en fait, c'est important pour moi, en tout cas dans ma vie, pas que politique mais aussi politique, de pouvoir faire front en fait avec d'autres gens aussi qui ont éventuellement on partage la judéité, du coup on partage toutes les complexités en fait qu'il y a vis-à-vis de nos familles, vis-à-vis de notre éducation, vis-à-vis de je sais pas, l'isolement qu'on peut avoir aussi en tant que personne juive antisioniste, l'isolement des communautés religieuses, l'isolement de la famille et juste de la communauté en règle générale. Et pour moi ça fait sens quand même de militer à Tzedek pour toutes ces raisons, parce que
malgré les difficultés que ça porte, t'imagines?
Oui, bien sûr.
Ben oui, complètement. Moi aussi, d'un point de vue personnel, pour avoir assisté à une ou deux réunions de Tzedek, j'avais beaucoup aimé ce rapport là à la communauté, à la manière dont on refaçonne l'intentionnalité de la pratique de cette religion, de ces cultures, etc. Et pareil, pour tous ces juifs, ces faradim, et dont moi je fais partie, la guerre, elle est un petit peu à l'intérieur de nous. Enfin, moi je le sens comme ça.
Ouais.
Et donc du coup, ça m'a vraiment fait une bouffée d'air de pouvoir assister à des réunions, de pouvoir voir aussi d'autres juives et juifs, en parler, discuter, se politiser sur ces questions. Enfin voilà, j'avais pas trouvé ça avant dans ma communauté, ou en tout cas très proche. Et du coup, je sais que voilà, je reconnais vraiment le travail de Tzedek, et j'espère, en tout cas nous. À la radio et sur la matinale de Dormir Debout, on espère vraiment qu'on en parlera dans l'histoire, que ce sera inscrit dans l'histoire, l'UJFP, Tzedek, et que l'antisionisme et que la défense du peuple palestinien sera là, dans les livres d'histoire, prochainement.
Ouais. Voilà, ils essayent de nous faire sauter des livres d'histoire, mais je pense que ça va pas marcher, quoi.
Oui, complètement.
J'ai foi en l'avenir. Hein.
Ouais. Moi aussi, tant faire se peut. Peut-être aussi une dernière question sur où est-ce qu'on peut vous soutenir, s'il y a une manière de faire soutien, mais aussi du coup, est-ce qu'il y a des prochains événements, est-ce que dans la manière dans la potentialité de rejoindre Tzedek, est-ce que voilà, enfin un petit peu toutes ces questions là.
Ouais, pour les auditeuristes juifs et juives qui nous écoutent, Tzedek est tout à fait, est complètement rejoignable. Il suffit juste de nous contacter sur Instagram, CDEC Collectif, d'envoyer un petit mail et de rencontrer les militants. À Lyon, on est assez accessible. On est souvent là en manif, où on fait
très souvent
de nous parler pendant les événements. Il y a quelques événements qui viennent à Lyon, mais je ne peux pas en parler encore parce que rien n'est très très sûr. Mm-hmm. Voilà, sur Paris, il y a aussi des événements, il y a des communiqués qui sortent. Donc n'hésitez pas à envoyer un petit message sur Instagram, un petit mail, et on vous répondra.
Super. Et j'ai vu aussi que TCDEC organisait des formations à l'antisémitisme. Et voilà, encore une fois, j'imagine qu'en en se rapprochant de TCDEC, il est possible de participer à ces formations. Je sais que sur Paris, ils ont organisé.
Oui, ils ont organisé pour le collectif, pour des collectifs sur Paris. C'est surtout pour des collectifs que les formations elles sont organisées. C'est pas vraiment pour les individus, mais de toute façon si vous voulez déconstruire votre antisémitisme, ou je sais pas, si vous voulez en apprendre plus, en tout cas politiser vraiment la question de l'antisémitisme, il y a pas mal de communiqués sur Instagram, et puis il y a c'est là qui est assez visible sur Parole d'honneur, sur Le Média. Il y a des tribunes qui sortent de TCDEC assez régulièrement, de l'UJFP aussi. Voilà, il y a de quoi faire, quoi.
On te remercie d'être venu sur le plateau.
Ben, merci à vous.
Tal, c'est chouette. On est content d'avoir réuni ces voix antisionistes. Et il est 9h01 sur le plateau de La Plus Rebelle.